RLP.
L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard. Fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.
Bonjour RLP, bonjour RLPciens et RLPciennes. Devant l'idiocratie, un espoir renaît toujours et encore, l'alternative. Aujourd'hui, un invité, Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour RLP, bonjour Luc.
Qui participe à cette grande action de l'alternative. Alors Rémi, pour ne pas spolier ton identité, tu es en train de monter un garage associatif. Je te dis, c'est l'idée phare qui m'a hanté quand j'ai préparé l'émission. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avant d'arriver à ce garage associatif?
Rapidement alors.
Ouais.
Rapidement, ça va être compliqué.
Bon, tu fais un petit tour. Hein.
Du coup, Rémi Voisin, je suis né en Champagne-Ardenne. J'ai étudié la biologie à Reims, à Saint-Étienne, à Rennes. J'ai bossé comme biologiste en protection des plantes à Gap, en Inde, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Après, je suis devenu cuisinier, je suis retourné à Rennes, où j'ai fait beaucoup de musique, à Paris, à Bruxelles. Et après, en arrivant en Dordogne, je suis devenu mécanicien, étant donné que la mécanique, c'est quand même une passion de longue date. Et du coup, je me suis dit que monter un garage associatif, c'était quelque chose d'assez important pour la Dordogne, vu qu'on a quand même énormément besoin de nos voitures, devant l'absence de transport en commun efficace.
Ok.
Ça va ?
Ouais, bah et toi, ça te va ?
Ça me va.
On va approfondir un peu, parce que tu fais tellement de choses quand on a préparé l'émission. J'ai compté 5 actions différentes. Et tu m'as parlé beaucoup du vélo. C'est parti de cette idée-là du vélo. Est-ce que tu peux...
Eh bien, le vélo, c'est le premier moyen de transport efficace après la marche. Et du coup, moi, j'ai grandi à la campagne et j'ai appris la mécanique avec mon père en réparant mon vélo, en fabriquant des vélos, en réparant des vélos, en cassant des vélos et en re-réparant des vélos. Essentiellement des vélos cross au début, ce qui n'aime pas, des vélos qui n'aiment pas trop les chocs, enfin qui aiment bien les chocs, mais qui à chaque fois ont besoin de réparation. Et du coup, c'est très instructif pour apprendre les différentes matières de la mécanique.
Ouais. Oui, je suis sur le vélo parce que je trouve aussi que ça représente très bien la mécanique entre les roues, l'écran, etc. On rentre assez facilement dans le schéma mécanique. De quel milieu tu dirais que tu viens?
On va dire, selon une dénomination marxiste, je suis intellectuel petit bourgeois. J'ai des parents qui ont été ouvriers et employés et qui, au fur et à mesure, sont devenus enseignants au milieu professionnel. Et du coup, moi, on roulait pas forcément sur l'or, mais on n'a jamais vraiment manqué. Et du coup, j'ai pu faire des études supérieures. Et après, je me suis orienté vers des métiers d'artisanat. Mais du coup, j'étais plutôt destiné à être ingénieur, à côté des ingénieurs. Enfin, j'étais plutôt destiné à être plutôt dans un milieu intellectuel, technique intellectuel, on va dire.
Est-ce que, bon, on peut pas dire du fait que ce soit le manque qui fait que tu es bricole tout, que tu touches un peu à tout? C'est quoi
Non, c'est une philosophie. Hein.
Ouais.
C'est une philosophie de la réparation. C'est un jeu. En fait, je vois quand même la mécanique et la réparation comme des Lego. Je jouais beaucoup Lego. J'étais plus côté Lego que Playmobil. Parce que les Playmobil, c'est un peu limité. Et du coup, il y a un côté jeu à réparer des choses. Il y a forcément un côté politique de déprogrammer l'obsolescence, de réparer des choses qui sont censées être mises au rebut, etc. Et il y a un côté émancipateur de savoir réparer, d'analyser des problèmes, de ne pas passer chez le marchand à chaque fois, de ne pas acheter des choses neuves à chaque fois et de se débrouiller avec ce qui existe. Enfin, comme fait à peu près, je pense, les trois quarts de l'humanité actuellement, c'est de réparer des choses et de les faire durer le maximum de temps. Donc voilà, ça regroupe le jeu intellectuel et le côté politique émancipateur. Ouais.
Cool. Et... tes parents étaient eux-mêmes bricoleurs? Ils t'ont initié ou toi t'y es venu et ils t'ont accompagné? Comment ça s'est passé dans l'enfance?
Du coup, ma mère était plutôt côté plante, cuisine, préparation, autonomie. On va dire que je suis issu de post-68 quand même. Mes parents sont plutôt des libertaires, sont même carrément des libertaires. Et du coup, ma mère, elle travaillait beaucoup sur les plantes, du coup, elle m'a donné ça, qui elle-même le tenait de sa grand-mère. Et il y a tout aussi un côté de la famille qui vient de la cuisine. Il y a aussi tout un côté de la famille qui vient de la mécanique, sachant que j'ai des origines italiennes où il y avait des mécaniciens. Mon arrière-grand-père était mécanicien monteur en métier à tisser, donc il a un peu participé à envoyer des métiers à tisser partout et à... je ne dirais pas qu'il a cassé une certaine partie du monde ouvrier, non, je ne le dirais pas. Voilà. Et du coup, mon père, lui, je pense qu'il était bricoleur et qu'il s'est formé à la mécanique au fur et à mesure qu'il montait. Et il s'est formé à la mécanique automobile, notamment parce qu'il en avait marre de se faire, je pense, un peu avoir par des mécaniciens peu scrupuleux, qui sont un peu comme les dentistes et plein de gens. Il y en a des biens, et comme dit Didier Super, il y en a des biens. Il y en a des biens. Et du coup, ça a été une transmission assez rapide, sachant que j'ai commencé à réparer mes vélos à 6 ans, je pense, et à utiliser des outils.
Ouais. Ouais. Ah oui, très tôt, carrément. C'est...
Oui, très tôt, j'ai su réparer des crevaisons. Ouais.
Cool. Mon
premier vélo d'occasion, vélo de mes cousins ou de mes cousines. Mon deuxième vélo, on a dessoudé le cadre, on l'a ressoudé différemment, on a fabriqué en gros un premier VTT monovitesse que je n'ai pas cassé, qui a roulé en peinture d'après. La première fois que je l'ai essayé, c'était sur les jambes dans le jardin pour voir, il roule, ok, il roule. Après, j'ai eu un vélo cross d'occasion et on a restauré complètement un vélo Peugeot 3 vitesses, demi-course, la pneu ballon, ouais. C'est-à-dire tout faire, tout démonter, remettre les rayons, remettre les roulements, dérouiller les jantes, refaire une peinture, l'intégrale, quoi. Donc, c'était très formateur. Et en même temps, on m'a appris à couper du bois avec une hachette, à remettre des manches sur des marteaux, à utiliser une lime. C'était pas la période bénie des visseuses et des disqueuses et tout ça. Du coup, on avait majoritairement des outils manuels.
D'accord. Est-ce que ça, tu crois que ça expliquerait le fait qu'on n'est pas moins bricoleur, je pense pas, mais on est moins dans la recherche de réparer que, je pense, dans les années 60. Non, parce que t'as le même constat ou pas ?
Je pense que... Alors, je sais pas, parce que je suis énormément entouré de réparateurs, forcément.
Ah ouais, donc ton
D'après mes passions, etc., j'ai énormément de gens qui réparent. Et puis là, on est beaucoup dans le Périgord vert, donc avec des gens qui ont eu potentiellement une carrière avant et qui se réorientent vers l'artisanat, donc qui sont resoumis à des logiques d'outils, d'entretien d'outils, parce que voilà, que tu sois charpentier, charpentière, menuisier, etc., si tu veux acheter une circulaire Makita, bon, ça coûte la moitié d'un bras, etc. Les tronçonneuses, si tu veux les faire entretenir chez un professionnel, ce qui est intéressant parce que les professionnels sont parfois de très bons conseils, histoire de ne pas casser le sucre sur le dos de tout le monde quand même. Mais très vite, ça te coûte très cher. Donc, ou tu as une activité économique qui te permet de faire un entretien régulier chez des professionnels et de payer des factures, etc., etc., ou tu es plutôt sur des... les gens que je connais sont plutôt en pluriactivité.
Ouais,
donc
ouais.
Ils ont une petite partie artisanat, ils ont une partie conseil, ils peuvent être journalistes, ils peuvent être profs de yoga ou de théâtre ou de musique, etc. Donc souvent tout le monde a trois activités, tout le monde a au moins un véhicule, peut-être un véhicule pro, peut-être un motoculteur, peut-être un tracteur parce qu'ils ont du terrain. Donc tout ça, ça fait de l'entretien. Et du coup, il y a un côté économique exactement à faire de l'entretien soi-même ou à faire de l'entretien avec des gens qui connaissent. Et du coup, là, je suis beaucoup sur des groupes où on veut faire de l'entretien ensemble.
D'accord. Oui, parce que quand on s'est rencontrés, en fait, tu mènes un atelier pour la récréative qu'on a reçu il y a quelque temps. Et tu mènes donc un atelier de réparation auquel j'ai participé. J'ai amené la débroussailleuse, brillamment, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis parti, l'objet fonctionnait, alors qu'il ne fonctionnait pas quand je suis arrivé. Pour toi, c'est quoi l'envie, en dehors du fait économique, parce que des personnes que j'ai vues, moi, dans l'atelier, je ne considérerais pas que ce soit des gens qui en ont besoin, enfin, qui ont besoin économiquement de passer par de l'autoréparation. Moi, j'avais un autre constat. J'ai remarqué que les gens aimaient bien toucher les petites pièces, démonter, remonter. Est-ce que c'est juste ce que je pense ou tu as un autre regard, toi ?
Ah non, je pense que tu as tout à fait... C'est juste, c'est pas complet, mais c'est tout à fait juste.
Alors
en précision, du coup, moi, je suis formateur pour adultes, donc dans un CFPPA. donc sur des formations agricoles en reconversion. Je donne des formations avec des adultes qui sont déjà en poste aussi, qui sont des professionnels de l'entretien, des espaces verts, qui viennent apprendre à se débrouiller. Et en même temps, je travaille aussi à la ressourcerie, la récréative à Thiviers. Et dans ce cadre de la ressourcerie, je donne des ateliers partagés. Donc demain, je donne un atelier électro sur de la réparation de grille-pain, de télévision, etc. Ce qui n'est pas vraiment mon fort, mais j'apprends. Et pour tout ce qui est mécanique, eh ben, c'est vraiment une transmission aussi d'utilisation des outils, de comment c'est construit. Donc il y a quand même un jeu du Lego, de savoir démonter et remonter sans casser, de savoir comment ça a été conçu et par qui et quelles ont été les améliorations, parce qu'en fait, il y a un chemin intellectuel qui mène aux machines qu'on a actuellement. Et du coup, il y a plein de gens qui ont essayé plein de choses, il y a eu plein d'idées, il y a eu plein de matières, et du coup, tu abordes un condensé de l'intelligence humaine, parce que tu as du plastique, tu as de l'aluminium, tu as des aciers traités, tu as des aciers durs, des mous, tu as des renvois d'angle, tu as des trucs. Donc, tout le monde s'est posé énormément de questions, comment on va faire? Et du coup, quand tu commences à rentrer dans la mécanique, eh ben, tu marches un peu sur les traces des gens qui l'ont construit. Donc effectivement, dans les ateliers, il y a des gens qui ne sont pas économiquement, qui n'ont pas forcément besoin, qui pourraient aller chez des réparateurs. Mais je pense qu'il y a l'envie de réapprendre les gestes. Monter, démonter, utiliser des outils, il y a quand même une manière de... Enfin, moi, je l'aborde aussi d'un côté méditatif, c'est que ça te permet, si tu t'énerves pas sur la machine, parce que l'utilisation du marteau...
Ce qui est mon cas souvent.
L'utilisation du marteau est plutôt à préconiser en dernier ressort. On en parlera après. Et du coup, il y a un côté méditatif où tu apprends à utiliser les choses, à les monter. Il y a aussi un côté remise en confiance. Il y a quand même une bonne partie, ça t'aide à... Enfin, moi, je le vois dans mes ateliers mécaniques, enfin, dans les cours que je donne. J'arrive avec des gens qui, parfois, n'ont pas beaucoup confiance en eux. Et au bout d'une semaine, ils sont très fiers d'avoir pu
remonter. Quand ils ont compris « je sais que je sais », ça donne de la confiance.
Ouais.
Ouais, c'est intéressant, ça. Hein.
Et c'est un premier pas. Alors, des fois, tu donnes un virus. Et ça, c'est dommage parce qu'après, tu retrouves des gens qui se mettent à réparer des vélos, des tronçonneuses partout, tout le temps. Et ils y passent des heures. Donc, c'est un peu un virus. Mais c'est aussi un premier pas pour dire « Ok, ça fonctionne comme ça, j'en ferai peut-être pas mon métier, je ferai peut-être pas ça tous les jours, mais un, je me sens moins bête, et quand on va me raconter des choses, je pourrai comprendre aussi de quoi on parle. »
Le fameux « je sais que je sais faire » va amener d'autres choses. Sur la sociologie des publics que tu accueilles, alors tu interviens dans les lycées, tu interviens à la récréative, donc plutôt des publics adultes, où il y a des jeunes, ou c'est public
adulte. Plutôt adultes, oui.
Tu interviens... Ou d'autres, tu disais ?
Globalement, c'est des adultes. Globalement, ça va de 18 à 60, on va dire.
Ah ouais, dans un lycée pro ?
Ouais, mais du coup, c'est le CFPPA, donc c'est un organisme à côté qui fait de la formation professionnelle. Et du coup, je leur apprends aussi... Bon, l'idée, c'est l'entretien petit matériel, espace vert, etc. Mais c'est aussi apprendre à se servir d'un outil, d'une lime, d'une scie à métaux, d'une scie à bois, et après d'une disqueuse, d'une scie circulaire, etc., d'un poste à souder... Donc c'est apprendre les différentes matières, c'est apprendre à situer dans un atelier sans se blesser, parce que en fait l'idée c'est vraiment sans se blesser. Si on casse les machines, si on casse les trucs, c'est pas très grave, mais bon l'idée c'est de pas perdre des morceaux. Et donc il y a vraiment aussi comment tu vas aborder le travail, quel espace il va te falloir, qu'est-ce que ça va provoquer, donc est-ce que tu vas mettre des étincelles sur des bidons d'hydrocarbures, Enfin voilà, quels sont les risques et comment tu vas pallier aux risques ? C'est ça vraiment le gros travail. Comment tu vas protéger tes yeux, tes oreilles, tes doigts, etc. Les gens avec qui tu es dans l'atelier. Parce qu'on ne se comporte pas tous pareil dans un atelier ou dans un espace fermé. Donc ouais, il y a vraiment un gros truc d'appréhender l'espace, de se situer et d'anticiper. Du coup, d'anticiper quelles vont être les actions et quelles vont être les conséquences. Donc c'est assez instructif.
Ok, donc là on est sur une première approche pédagogique, mais je reviens sur la question sociologique, est-ce que tu considérais qu'il y a plus de 18-25 ans, ou est-ce que tu pourrais faire des tranches d'âge par rapport, que ce soit au lycée, ou au centre de formation, ou à la récréative, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus présente ?
Moi je suis plus sur du 30, du 30-50.
D'accord.
Bon, là je donnais des cours à des professionnels des espaces verts, dans la fonction publique, donc des gens qui sont engagés dans les communes, des cantonniers ou des agents des services techniques. Donc c'est aussi des gens qui ont déjà eu une ou deux vies professionnelles, qui ont été maçons, qui ont été éducateurs, qui ont été restaurateurs, qui ont été... Enfin voilà, tout plein de choses. Et qui arrivent en Dordogne, et ben bon, ils prennent un poste d'agent de service, ça leur va très bien. Et du coup, bah, c'est plutôt des gens, ouais, c'est plutôt des gens, on est plutôt au-dessus de 30. D'accord. Donc on va dire que les 18-25, c'est plutôt 10% de mon public.
Ok. Et c'est plus féminin, masculin ?
C'est majoritairement masculin.
D'accord.
On va dire que le féminin représente, pareil, ça monte à 20%. Après, j'ai des groupes, j'ai eu un groupe d'ouvrières horticoles qui était majoritairement féminin. Du coup, sur 5 personnes, il y avait 4 filles. Voilà, quoi.
Donc, ouais. Et tu trouves c'est en augmentation ou pas le...
Je sais pas, c'est pour me situer, mais c'est majoritairement masculin. Mais...
Je m'intéresse beaucoup aux groupes qui vivent ça, qui consomment ces milieux ou qui y participent, parce que je trouve que ça parle beaucoup de comment ça démarre, quels éléments il faut pour installer du mouvement alternatif.
Je peux rajouter ?
Oui.
C'est... Alors en fait, comme tu parlais... Tu parlais parité un petit peu. On va dire que dans le projet de garage associatif, par exemple, eh ben là, je pense qu'on est plutôt à 50-50 féminin-masculin, s'il faut se situer dans le genre. Et moi, l'idée du garage associatif en Dordogne, il vient aussi du fait que j'ai beaucoup participé à des garages associatifs vélo, en Carène, à Paris, à Bruxelles, à Gap, à Saint-Etienne. Enfin, dans toutes les villes où je suis passé, globalement, j'ai participé à des garages assos. Où l'idée, bah, c'était l'émancipation sur le vélo, vu que le vélo, c'était un des premiers moyens de déplacement dans les grandes villes, hein, qui est pertinent. Et là, c'était aussi aider pas mal de copines à se débrouiller sur leur vélo. Et les aider sans leur piquer le tournevis des mains. Du coup, c'est vraiment en leur montrant les gestes et comment pas se blesser, etc. Mais du coup, on leur laisse en faire, puisqu'il y a une genrification, je sais pas, de la mécanique, où c'est majoritairement aux petits garçons qu'on apprend à servir de la mécanique, quoi.
Oui, on le voit. Hein. Moi, j'ai un enfant de 5 ans. Au moment de Noël, on voit la furie des jeux qui sont mis en place. En plus, c'est distingué. Tu as des fois des jeux de coopération qui sont distingués pour les filles et pour les garçons. Et en fait, ce qui fait la distinction, c'est la princesse et le super-héros. Bon, c'est même pas une mécanique, donc il n'y a aucune démonstration. On construit vraiment les gens pour qu'ils servent à quelque chose. Comme quand on construit un marteau pour clouer. On est encore un peu sur cette performance-là. Dommage ou pas, j'en sais rien. Je commente pas ce genre de truc. On va se faire une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Lamastard et le morceau s'appelle Hey Gamine.
Radio Libre en Périgord.
Hey Gamine, ouvre les yeux, le monde s'ouvre à toi, t'en perds pas d'un dieu. Hey Gamin, pense à demain, profite du prochain, pense à tes copains. Hey Gamine, pense à l'école, tu vas t'éclater, pouvoir faire la folle. Et gamin, de tes deux mains et d'un peu de colle, construis ton lointain. Et garçon, tu apprendras tout au long de ta vie que tu peux être un roi. Et jeune fille, tu comprendras qu'avec un peu de punch, les gars n'ont pas la loi. Et souviens-toi, la douceur, la fraîcheur et l'odeur des fleurs. Des mots, dès que t'es ado pour refuser le tempo que l'on dépose sur ton dos. Tu veux y aller vite, vite, mais sans réplique. Le monde s'invite, t'impose sa panique. Mais souviens-toi, la fraîcheur et l'odeur qu'il y avait dans ton cœur. Mais souviens-toi, le schéma de tes pleurs reproduit la douleur. Hey petit gars, y'a pas que ce que tu vois dans la vie. Tu fais le poids, homme ou femme, t'as les choix. Impose-toi, tu verras, ton passif est aussi pour les cons et les fils. Monsieur, madame, n'impose pas que tes choix à l'enfant dans des mois qui ne veut pas comme toi. Hey monsieur, madame, tu fais des enfants et tu les condamnes. Fille, garçon, tu apprendras tout au long de ta vie que tu peux être un roi. La naissance d'une fleur qui grandit fleurie dans nos douleurs. L'allégeance d'un seigneur qui domine dans ton cœur. Mais n'oublie pas les odeurs et les fleurs. Mais n'oublie pas les produits de ton cœur. Et tu devines quand
tu câlines la divine providence que tu affines, la cantine ding ding de ta vie, bing bing d'une vie voulant du spleen. Mais souviens-toi, la douceur, la fraîcheur et l'odeur des fleurs. Mais souviens-toi, la beauté de ton cœur.
RLP
Radio Libre en Périgord.
Hé hey gamine, ouvre les yeux, le monde s'ouvre à toi, t'emmerde pas d'un dieu. Hé hey gamin, pense à demain, profite du prochain, pense à tes copains, mais n'oublie pas les odeurs et les
de retour fleurs. Sur RLP dans l'alternative, on va attaquer un peu la construction des ateliers. Comment tu abordes, toi, un atelier pour que les gens y puissent accéder facilement aux choses, qu'ils soient à l'aise? À quoi tu fais attention?
Alors, je tape sur plusieurs niveaux actuellement, on va dire. Là, si je fais un atelier pro, avec des gens qui sont déjà confirmés, je vais leur expliquer, je vais déjà avoir une introduction sur les outils, le fonctionnement de l'atelier, les risques, etc., que ce soit un petit peu calé, des choses comme ça. Quand je fais de la mécanique, on utilise des hydrocarbures. Et très vite, si tu n'as pas des gants ou si tu ne te protèges pas, Mais c'est important de préciser les choix. Tu vas très vite avoir le risque de chute, d'incendie, et d'électrochoc, des fois quand tu testes des petits, quand tu testes des petites démarrages de tronçonneuses, etc., que tu testes les bougies, les étincelles. Donc tu as des risques d'incendie, tu as des risques de chute parce que tu vas avoir de l'huile des fois, etc. Tu as des risques d'intoxication parce que si c'est des machines thermiques, tu vas les démarrer, donc tu vas respirer des gaz d'échappement.
D'accord, c'est toi qui crée la norme en fait quand tu expliques dans l'espace, il faut retirer les fils par terre, etc.
C'est pas mal, oui.
Je pose cette question parce que s'il arrive un couac, quelqu'un qui se blesse, ça prend feu, je sais pas. Du coup, comment tu gères toi, par exemple pour le prochain, le garage que tu es en train de monter là?
Bah du coup, le garage où on est en train de monter, on est un garage, on n'est pas encore aux normes, du coup on n'est pas un garage pour l'instant.
Donc il y a une norme que tu suis?
Oui, on va se rapprocher au maximum d'une norme industrielle.
Et du coup, tous ces ateliers, alors c'est sujet à des assurances en particulier?
Oui,
associatif, on fait fi de l'assurance?
Non, on a des assurances, donc on ne fait pas fi des assurances. Après, je ne suis pas complètement au courant, mais je sais que pour mon atelier, pour le garage asso qu'on veut monter, oui, on va avoir une assurance type garage. Après, si on a un garage partagé, si on ne veut pas avoir payé une responsabilité civile de garagiste, d'intervenant mieux, ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes qui interviennent sur leur véhicule.
C'est leur assurance.
Oui, on est sur de l'autoréparation. Alors, ça veut dire que notre assurance va les couvrir à l'intérieur du garage pour tout ce qui est chute, incendie, blessure, etc. Par contre, l'assurance ne couvrira pas les dommages faits au véhicule parce que c'est eux qui réparent sous nos conseils. Mais ça, c'est un autre problème. Après, on peut décider de changer d'assurance, on peut essayer de voir. C'est aussi un problème de comptabilité. Mais pour tout ce qui est responsabilité civile à l'intérieur du bâtiment, sur tout ce qui est chute, accident, incendie, électrocution, il faudra qu'on soit carré pour que...
Et quand tu aménages comme ça un atelier, tu le prévois pour combien de personnes? Là, par exemple, on va prendre la recyclerie, par exemple. À chaque fois, tu prévois les choses pour combien de personnes?
Moins de 10 personnes, c'est bien. Au-delà de 10 personnes, ça commence à être plus complexe.
Pourquoi?
Parce que plus de gens, plus d'outils, plus de circulation, plus de machines.
Ouais, okay.
Et alors moi, j'essaye de faire des points d'introduction sur le fonctionnement de l'atelier. Ensuite, comme les personnes viennent avec chacune au moins une machine ou deux, on essaye de voir machine par machine, c'est quoi la progression, c'est quoi les symptômes, et sur quoi on peut orienter et comment on va travailler dessus. Et donc, que chacun ou chacune ait un espace pour travailler en sécurité. Et que chacun et chacune puisse démonter leur machine, démonter les pièces sans que ça se mélange avec tous les outils et toutes les pièces de tout le monde. Donc, théoriquement, moi, ce que j'aime bien, on va dire que pour un binôme qui travaille sur une machine, un établi de 2 mètres carrés, c'est bien. Donc, imaginons 10 personnes.
Tu les fais bosser à deux?
C'est bien de bosser à deux. Alors ça peut être une personne toute seule qui vient toute seule et qui a envie de travailler toute seule, elle peut travailler toute seule. Mais dans les cours, souvent à deux, il y a déjà des affinités dans les groupes que j'utilise, que je reçois. Il y a déjà des gens qui travaillent ensemble à l'extérieur, du coup ils ont plutôt tendance à travailler ensemble quand ils arrivent.
Et puis après, ben, tu te sers aussi des compétences de chacun et de chacune, qui sait affûter, qui sait bien démonter, qui sait analyser des choses.
Ah, tu fais de l'éduc-pop
On fait du transfert, ça, on se sert de... Parce que moi, quand je bosse en professionnel en CNFPT, j'ai des gens qui sont en poste depuis 10, 15 ans, parfois, 20 ans,
faire des choses, ouais.
Qui sont bûcherons depuis toujours, qui sont agriculteurs, qui sont agriculteurs, agricultrices... Donc, ils savent utiliser des outils. Ils ont été maçons, maçonnes, charpentiers, etc. Donc, ils ont plus d'expérience que moi sur la découpe de bois, par exemple. Donc, on échange. On essaye de voir qui pense quoi et qui croit quoi. On essaye de casser certaines idées reçues. Après, il y a toujours un côté magique dans la mécanique. C'est que des fois, tu sais pas pourquoi. Moi, quand même, j'avoue, il y a quand même un pourcentage de choses. Je ne sais pas toujours pourquoi. C'est parce que je ne sais pas encore, peut-être. Donc, j'ai encore besoin de me former. Mais bon. Donc, oui, il y a du transfert. Je m'arrange pour que les gens soient bien ensemble et qu'ils aient un bel espace de travail. Là, dernier atelier à la ressourcerie, on avait deux tables de 2 mètres. On était 5. Il y avait 5 personnes qui venaient. On était un peu serrés. 5 personnes, on aurait pu avoir 4 tables de 2 mètres. Comme ça, on est tranquille. Chaque personne a d'espace pour se poser, pour travailler sans se gêner. Et pareil, plus tu as de personnes, plus il te faut un minimum d'outils pour que les personnes puissent travailler tranquillement. Sinon, tu fais que de faire des allers-retours pour aller chercher des outils et te croiser.
C'est quoi les financements qu'il y a sur ce type d'atelier ?
Sur la ressourcerie ?
Par exemple, ou même sur le garage, je suis aussi intéressé pour le garage.
Sur la ressourcerie... normalement, il y a parfois des enveloppes qui sont faites justement pour l'autonomisation, sur le réemploi. Donc, il faudrait que je demande à Benoît, ma coordinatrice, exactement.
Oui, mais elle en a parlé.
Qui s'en occupe.
Oui,
les avez reçus, je pense.
Ouais, il y a des financements.
Donc, il y a des financements. Après, on ne le fait pas toujours avec ces financements-là. Donc, moi, je sais que j'amène souvent mes outils. Il y a une partie des outils à la recyclerie, mais moi j'amène aussi mes outils, mes techniques. Donc j'ai beaucoup de récupération, que ce soit des bagues, des chiffons, pas mal de...
Et sur le garage, c'est quoi le type de financement qu'il peut y avoir
sur le garage, on va être beaucoup en autofinancement.
Ah ouais ?
Ouais, on va être beaucoup
Il y a des
financements. Donc moi je suis accompagné par Émergence Périgord. Donc je salue Pierre et Lola, notamment. Je suis accompagné par Émergence Périgord pour apprendre à monter un garage associatif et potentiellement solidaire et programmer le financement sur 2-3 ans et du coup aller chercher des financements auprès des financeurs qui peuvent être des fondations, qui peuvent être des com-com, qui peuvent être des communes, qui peuvent être tout ça. Donc apprendre à programmer...
Et tu crois que sur les financements, c'est quoi ? C'est plus matériel ? C'est du salaire ? C'est quoi ? De l'organisation ? De l'administratif ? Sur quoi tu as des financements ?
Ça peut être un peu tout ça. C'est plus facile en ce moment, je crois, d'avoir des subventions niveau salariaux. Mais il y a aussi des financements de fonctionnement. Mais sur certaines, c'est plutôt les fondations qui vont donner, à la rigueur, les fondations de certaines banques ou de certains organismes qui vont donner sur de l'équipement. Les Comcom et les conseillers généraux, etc., départementaux, ont plutôt tendance à financer du fonctionnement, donc des salaires pris en charge via associatif. Donc nous, on aurait un statut associatif. Et premièrement, parce que moi, je ne suis pas un très fort... J'aime bien communiquer à la parole, mais je ne suis pas très bon pour envoyer des tonnes de mails, les programmer des réunions, etc. Et je ne suis pas très bon pour monter des dossiers financiers. Alors j'ai des amis qui savent le faire. Et du coup, je me suis dit, la première année, peut-être, on travaille en autonomie, en autofinancement, en bénévolat. Et tout ce qui rentre dans le garage sert à équiper le...
D'accord.
Sachant que j'ai déjà mis moi-même en financement, en fonds propres, j'ai déjà mis pas mal de choses pour qu'on puisse travailler.
Parce que oui, parce qu'on peut se poser la question, ça sert à quoi pour une asso d'avoir ce type d'atelier ? Ça ramène quoi ? C'est quoi le...
Bah, franchement, je pense, en premier, c'est d'avoir un lieu pour pouvoir travailler sur les véhicules et les différents outils mécaniques qu'on peut avoir, pouvoir travailler facilement. Parce que là, on a déjà un lieu qu'on a acheté à plusieurs, à Saint-Jory-de-Chalais, qu'on a acheté en SCI, où on a monté une association qui gère le lieu.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle la Singerie, à Saint-Jory-de-Chalais.
où il y a plusieurs, voilà, Saint-Gerie, Saint-Jory, voilà. On a fait un brainstorming d'une journée pour finalement accueillir autre chose.
C'était pas que au physique que vous avez trouvé le nom.
Non, c'est parce qu'on grimpe beaucoup, oui, c'est ça, et puis qu'on aime rire. Voilà, donc on est un collectif qui regroupe trois structures. Et du coup, le garage associatif, ça peut rentrer encore dans mon espace que j'occupe à la Singerie, mais si on devenait plus gros, il faudrait a priori qu'on change d'espace. Donc on peut imaginer un garage associatif où on gère quelques véhicules par semaine, où il y a une partie de gens qui sont bénévoles ou intervenants, qui viennent donner des cours spécifiques avec un programme spécifique, ça serait bien. Et on fait quelques véhicules par semaine, et on a un barème de prix d'intervention en fonction que tu utilises le pont, les machines, combien d'heures, etc. Et que ça, tout ce qui rentre, à la rigueur, ça paye le loyer, les charges électriques, etc.
Ben ouais, parce que
et le matériel qu'on utilise.
Mais vous êtes propriétaire des lieux ?
On est propriétaire des lieux.
D'accord. Et dans cette question de ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, en fait, de créer des systèmes comme ça au niveau régional ? Et je ne parle pas que pour recréer de l'emploi, parce qu'on voit bien que les financements sont beaucoup autour de créer de l'emploi. Ça servira à quoi dans nos sociétés de consommation d'avoir... J'attaque le sujet de en quoi c'est alternatif. Ça servira à quoi la société d'avoir tous ces trucs là qui grouillent dans des coins, qui construisent...
Du réseau.
Ouais.
De la résilience, c'est ça que tu veux ?
Je sais pas. Non. En société, ça servira à quoi de faire ça ?
Bah, je sais pas, apprendre à changer une boîte de vitesse, par exemple.
Ah ouais, voilà, merci pour le tacle. Oui, ça
non,
va, ça va
c'est moi je travaille beaucoup en associatif depuis toujours. Enfin depuis 30 ans, j'ai toujours travaillé en associatif.
Ça pique pas du travail ça ?
Est-ce que ça vole du travail ?
À l'entreprise ?
Non, mais c'est un mythe. La création du travail, je vais vous le dire moi, voilà, puisque je suis à l'antenne. Je vais vous le dire, la création du travail, c'est un mythe. À peu près la paysannerie peut fabriquer du travail. Sinon tout ce que tu fais, c'est voler du travail aux autres. Si tu crées une entreprise,
ben oui.
Si tu crées une entreprise, tu fais des trucs, bah, si les gens ils l'achètent là et pas là-bas, bah,
la
forcément, tu vas voler le travail aux autres. Il n'y a que du transfert, il n'y a jamais de création. Mmh. La création d'emplois, c'est un mythe. Si, on peut aller chercher du charbon. On peut aller chercher du charbon, ça crée de l'emploi, mais on va faire moins de pétrole. Alors,
ouais.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois dans le pétrole ? Est-ce que les gens dans le pétrole qui... Alors, est-ce qu'ils travaillent bien ? Est-ce qu'ils ont leurs papiers, d'ailleurs, les gens dans le pétrole ? Est-ce qu'ils ne sont pas exploités ? Est-ce qu'on ne soutient pas un système esclavagiste en consommant du pétrole ? On peut aller loin, oui. Est-ce qu'on pique de l'emploi en fabriquant un garage à sceaux ? Potentiellement, oui. Mais la plupart des mécanos que je connais, des mécaniciennes que je connais, sont débordés. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont des véhicules qu'ils ne peuvent pas entretenir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors après, ils peuvent faire des demandes d'aide pour entretenir leur véhicule. Dans l'absolu, moi, je préférais qu'il y ait des trains et des bus qui fonctionnent bien et qu'on ait des véhicules partagés et qu'on n'ait pas tous des véhicules personnels. Dans l'absolu, c'est un peu l'idée. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il faudra faire, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire 50 millions de véhicules électriques en France. Ça ne marchera pas. On n'aura pas les batteries. Et puis, c'est les Chinois qui tiennent toutes les terres rares. Donc, niveau indépendance, déjà passer au pétrole dans les années 70 et avoir tous un véhicule personnel, c'était se tirer une balle dans les deux pieds, parce qu'on savait faire du vélo. Donc, est-ce qu'on peut encore voler de l'emploi ? Je ne sais pas.
Mmh. Eh oui, à bien comprendre, hein, les systèmes alternatifs ne sont pas des oppositions à ce qui existe déjà. Ce n'est pas du hold-up ou du combat. Ce n'est pas comme ça que toi, tu vois le sujet ?
Non, pas du tout.
Ou est-ce qu'il y a quelque chose politiquement et mécaniquement qui fait que tu es quand même dans un punch, tu veux écarter un système ou tu veux juste faire ton action dans ton coin ?
Non, j'ai arrêté de vouloir écarter, il est trop fort, le capitalisme est trop fort. Et si on survit, on verra, mais je pense que là on a quand même des gros soucis. D'ailleurs c'est pour ça que je ne suis plus biologiste, hein. Parce que j'ai travaillé en politique environnementale et après j'ai compris que... avoir des financements publics pour faire de la politique environnementale, pour aller manger des petits fours dans des... Non, ça marchait pas non plus. Donc je me suis dit, non, on va revenir à la base, on va revenir à la cuisine. La cuisine, c'est simple, tu peux avoir des amis producteurs, productrices, tu peux avoir des circuits courts, tu peux faire quelque chose de simple. Et donc, je n'ai pas complètement abandonné la cuisine. C'est juste qu'ici, je me suis dit qu'il y avait une bonne offensive à faire sur la mécanique parce qu'on a tous des véhicules, on a tous des motoculteurs, des débroussailleuses. Alors, je trouve que la fosse est très bien pour faucher de l'herbe aussi. Hein. C'est un autre travail, c'est intéressant, c'est beaucoup plus résilient, justement. Bon, pour l'instant, on a plein de moteurs thermiques. Bon, on va se concentrer là-dessus. Après, on aura autre chose, on verra.
Et tu t'es formé en arrivant en Dordogne à la mécanique ou avant?
Moi,
en dehors du vélo, tu avais...
Oui, j'ai toujours fait un peu de mobilette, un peu de plaquettes de frein, de vidange, des choses comme ça.
Je sais parce qu'en préparant l'émission, tu m'as dit que tu avais passé un CAP.
Mais j'ai passé un CAP à l'AFPA. Du coup, en arrivant en Dordogne, j'ai refait une saison en cuisine, une ou deux. J'ai fait un stage à Château-l'Évêque avec M. Levaillant. Et c'était très bien. Et ça m'a permis aussi de rouvrir des droits, de revalider que j'étais potentiellement bon en mécanique, enfin potentiellement mécanicien, et que l'AFPA a pu me prendre. J'ai pu être financé sur 8 mois en CAP.
Cool.
Où c'est un peu la première étape de l'artisanat CAP de mécanicien électricien automobile, quoi. Et sachant que, en fait, moi j'ai grandi à la campagne. Avec un papa qui roulait en R16, en AMI 8, en NSUTT. Il avait une tendance à rouler assez vite et les moteurs n'avaient pas toujours tendance à suivre à la vitesse à laquelle il voulait rouler. Donc on avait tendance à faire les joints de culasse des R16. Et du coup, il y avait souvent une voiture ouverte dans la cour avec des pièces de voiture un peu partout. Donc on va dire que je ne travaillais pas beaucoup sur les voitures à l'époque, mais j'ai toujours vu des voitures ouvertes, démontées, remontées, nettoyées, remontées.
Ouais. R16, une voiture mythique de toutes nos enfances, enfin de la mienne en tout cas. On va réécouter un petit morceau histoire de se poser, si tu as besoin d'aller aux toilettes, boire quelque chose. Alors le groupe c'est The X et le morceau s'appelle Step Off Shop, c'est ça? C'est de ton choix?
C'est ça.
RLP.
Shut up! afraid to find reason to banquet. Sure, one can hide, but there's a world outside. Must be pretty safe under a fireproof blanket. Shock set, blank down, block bed, dang down. Wrong threat, bang clowns, wrong threat, bangs round. Shock set, blank down, block bed, dang down. Wrong threat, bang clowns, wrong threat, bangs round.
Retour sur RLP avec Rémi. Je ne vais pas spoiler. Tu voulais passer un message à ton papa.
Parce que bon anniversaire, papa. C'est quand même grâce à toi que je fais beaucoup de mécanique. Je ne sais pas si je dois vraiment te remercier. Si, 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 quand même.
Voilà, le message est passé. Ok. Alors, sur l'atelier que tu vas mettre en place, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de l'atelier ? C'est sur un statut associatif, de ce que j'en ai compris. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ? Moi, je vais y adhérer. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ?
Pour l'instant, on est un atelier informel où on travaille à plusieurs sur des véhicules, sur des machines. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une association à l'intérieur de l'association La Chingerie qui soit un garage associatif. Alors ça, c'est juste le début, parce que ça peut être beaucoup plus compliqué, en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir un minimum d'équipement pour réparer... des vélos, des mobilettes, enfin tout ce qui a un moteur, tout ce qui tourne. L'idée, c'est aussi de réparer de l'électroportatif, des outils, d'apprendre la soudure, etc. Donc d'avoir un minimum d'outils qui soient rangés et qui soient disponibles. Potentiellement, un, on pourrait donner des cours de mécanique ou d'utilisation des outils. Ça peut être des personnes qui ont juste envie de savoir comment fonctionne leur voiture, mais qui n'ont pas envie forcément de mettre les mains dedans ou de tout réparer, mais juste d'être un peu moins... comme une poule devant un couteau. Mais visiblement, les poules ont réussi à survivre sans avoir besoin d'un couteau. Bon, pas grave. Et, du coup, alors peut-être un programme de cours qui expliquerait comment fonctionne un véhicule. Puis un programme, par exemple, où tu apprends déjà comment fonctionne ton véhicule. Puis tu apprends à changer des balais d'essuie-glace, des ampoules de phare. Puis à faire des vidanges, à changer tes freins. Donc voilà. Donc tout ça, ça demande un atelier un peu aux normes, comme on disait, avec une électricité assez propre, de l'éclairage, des rangements, etc. Des endroits pour se laver les mains, des endroits pour se protéger, pour se changer, etc. Donc, dans notre collectif, dans notre association collective, on a déjà une cuisine, un bureau, des vestiaires, etc. Donc, on est déjà un minimum équipé. Il reste à voir des questions juridiques de comment on a le droit de travailler ensemble.
Sur les trois...
Ouais, sur les trois, et puis sur l'accueil, combien de gens on peut accueillir et dans quelles conditions, pour être sûr qu'il y ait le moins de problèmes. Il y a toujours des accidents, on est dans un atelier, donc tu peux toujours tomber, tu peux toujours te faire mal, tu peux toujours te coincer les doigts dans une porte, enfin voilà. Donc, est-ce qu'il y a des référents sécurité ? Est-ce qu'on a un endroit pour se nettoyer les mains, pour remettre des pansements ? Enfin voilà, tout ça, il va falloir le réfléchir. Donc moi, j'ai lancé ça sur une dynamique assez personnelle, parce que ça m'intéresse de partager... parce que ça m'intéresse d'avoir un endroit pour réparer mes véhicules, même si, en fait, j'ai jamais le temps de réparer mes véhicules, hein, je vous l'avoue en ce moment. Mais bon, Et puis mon idée à moi, c'est pas forcément de posséder plein de véhicules, même si j'aime bien certains vieux véhicules, certaines vieilles mobilettes. Bon, en fait, l'idée, c'est pas d'être dans la possession, mais c'est vraiment d'être dans la transmission. Donc j'ai pas mal d'amis, on va dire, je pense qu'il y a une bonne trentaine de personnes qui sont intéressées actuellement entre Thiviers, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Paul-la-Roche, Brantôme, etc. J'ai des liens avec beaucoup de monde. Donc c'est réunir tous ces gens-là, leur expliquer où j'en suis, et puis après l'idée c'est qu'ils puissent s'approprier le projet. Donc au départ on partait peut-être sur un garage qui pourrait m'employer comme grand coordinateur, mais bon finalement la coordination c'est peut-être pas mon fort. Et puis surtout, l'idée, c'est que le garage émerge et qu'il puisse un peu s'auto-entretenir. Un peu comme un moteur perpétuel, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement collégial, d'avoir des initiatives, que chacun, chacune puisse trouver sa place.
Tu veux dire que si j'adhère, moi, je pourrais rentrer dans le fonctionnement collégial, je pourrais avoir un poids dans les décisions ?
Oui.
Ah, cool.
Oui, après, ça dépend de l'investissement de chacun, chacune, de leur volonté. Peut-être qu'il y a juste des personnes qui viendront pour un service, pour apprendre à réparer, pour réparer une machine, une voiture. Donc, voilà. Et puis, s'il y a des personnes qui ont envie de s'investir sur comment on fonctionne en groupe.
Ouais.
Voilà, il y a quand même quelques groupes ici en Dordogne qui réfléchissent au fonctionnement de groupe et au fonctionnement alternatif. Comment on fonctionne en groupe ? Est-ce qu'on veut vraiment des véhicules ? Est-ce qu'on veut, par exemple, des véhicules partagés ? Est-ce qu'on pourrait avoir des véhicules partagés ? Est-ce qu'on pourrait avoir du matériel partagé, du gros matériel de motoculture, voilà. Donc il y a l'idée d'avoir une sorte de banque de véhicules ou de banque de matériel qu'on puisse venir emprunter une fois par an.
C'est intéressant ce truc, pardon je te coupe, mais ce fonctionnement alternatif qu'on va retrouver, c'est souvent un mécanisme qu'on connaît déjà en société. Tu vois là, les coopératives, bah, c'est un petit peu le système que tu expliques, sauf qu'il y a, je m'échappe de l'emprise de l'État ou je m'échappe du devoir payer ou du devoir être administré d'une telle manière. Il y a un peu de ça quand même dans le...
Oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi l'idée de le fonctionner en bénévole, c'est d'avoir le moins besoin, je vous avoue, de subventions possibles, en fait. C'est parce que là, je crois qu'on est justement à la grosse charnière des subventions, là, cette année, là, avec les gros problèmes d'associations qui n'ont plus de subventions. Bon, moi, j'ai quand même grandi dans un milieu un peu libertaire. Je suis passé par le Larzac, et après, je suis passé par Saint-Étienne. Et j'ai appris ce que c'était que l'autofinancement des associations du punk rock et de l'alternative musicale. Donc, comment tu fais si tu veux pas de subvention ? Bah, tu fais plus petit, tu fais avec les gens et tu fais un peu plus doucement. Tu passes un peu moins dans le journal, tu t'auto-congratules un petit peu moins, tu manges moins de petits fours, tu as moins d'amis. Mais par contre, des fois, les projets ils sont pérennes. Et si tu changes de projet, d'ailleurs, si tu changes d'endroit, bah, le projet il continue d'exister sans toi. Par exemple, je suis allé en Inde, j'ai travaillé avec une association qui fabriquait des graines de variétés anciennes, avec laquelle on a fini quand même un peu par se fâcher, parce qu'on n'était pas vraiment d'accord sur leur fonctionnement, parce qu'on les trouvait justement ni résilients, ni autonomes, ni partageurs, parce qu'ils gardaient le savoir, et ils ne savaient pas s'entourer de gens performants, et ils s'étaient fâchés avec Vandana Shiva, et quand tu vas en Inde, tu ne te fâches pas avec Vandana Shiva, c'est une bêtise. Si vous savez qui c'est Vandana Shiva, je vous le dirai après. Du coup, en Inde, j'ai rencontré beaucoup d'ONG, on disait NGOs là-bas, les gens avaient des beaux costumes et des belles valises et des petits stylos dans leur poche de chemise, et ils faisaient des groupes d'enfants et des groupes de femmes pour leur expliquer comment on fait du compost, comment on fait ça. Bon, bah, 90% des ONG que j'ai rencontrées, elles n'étaient pas pérennes. Si les financements s'arrêtaient, le projet s'écroulait. C'était vraiment un peu pour embaucher des gens qui avaient des études supérieures. Il fallait les embaucher pour un statut un peu social. C'était super.
Il y avait de la belle carte postale. Il y avait des belles images.
Après, j'ai rencontré un paquet d'ONG qui bossaient dans des alternatives et des échanges sud-sud, qui étaient tout à fait compétents et cohérents pour savoir d'où venaient les problèmes, qui étaient plutôt le FMI et l'OMC et le capitalisme international, et qui savaient justement s'indépendantiser, ne pas travailler avec des énergies fossiles et avoir des choses pérennes. Donc voilà, ça, je pense que ça m'a quand même pas mal inspiré. Sachant que ma mère m'a emmené aussi sur le Larzac, au cul du Larzac dans les années 80. Et je pense que c'est assez fondateur pour apprendre à faire du résilient, du...
Ça met de la graine.
Ça fait du low-tech, oui. Okay. T'apprends à construire.
Oui. Et tu vois, je pose cette question parce que... souvent, dans les systèmes alternatifs, le combat, ce n'est pas la première idée. C'est souvent d'échapper au système. Avant même de vouloir le combattre, c'est souvent se mettre à l'écart. un petit peu comme deux gamins dans une cour d'école, il y en a un qui est très fort qui tape les autres, et ben tu as des décisions qui se passent chez les gamins, notamment bah je veux pas être à côté de lui parce que je risque de me faire taper. Et j'ai l'impression que dans les mouvements alternatifs, il y a un petit peu ce truc là de fuir le celui qui tape les autres. Est-ce que mon regard il est juste ou...
Bah, il y a un peu une stratégie d'évitement et il y a aussi une stratégie de se fabriquer un lieu qui puisse être pérenne et qui ne dépende pas du bon vouloir de financeurs ou de... Et de faire en sorte qu'on ne soit pas attaquable. Et souvent, c'est un peu sortir du jeu économique. Enfin, mm-hmm. tu sors pas du jeu économique, c'est pas vrai.
Mais au moins d'être
disons,
indépendant.
Tu te mets un petit peu à l'écart d'un jeu économique marchand un peu violent qui peut assassiner et empêcher les gens des activités de perdurer. Donc oui, c'est être peut-être aller plus vite, aller plus doucement et grossir moins vite, mais d'être plus pérenne et surtout d'être... Donc l'idée du garage, c'est aussi d'avoir des antennes. C'est-à-dire qu'on est sur un grand département, on ne va pas toujours faire 50 km pour aller réparer un truc. Donc il y a des amis à Jumilliac, il y a des amis à Saint-Paul, il y a des amis à La Coquille, il y a des amis à Brantôme, à Nontron. Bah, peut-être d'avoir des annexes, déjà commencer sur de la motoculture, parce que à peu près tout le monde utilise une débroussailleuse, une tronçonneuse, une tondeuse.
Oui, et puis il n'y a pas des ponts élévateurs voilà, de bagnole partout.
Pas des ponts élévateurs partout. Et puis c'est souvent quand tu veux te servir de ton matériel qui ne marche pas. C'est comme les chaudières, souvent ça tombe en panne en hiver. C'est quand même vraiment mal fait la vie. Et du coup, qu'on ait plusieurs groupes. Et l'idée, c'est oui, d'avoir un réseau, d'avoir un multi-réseau. C'est du coup, dans chaque lieu, tu as plein de gens qui savent déjà faire des tonnes de choses. Du coup, c'est plutôt réussir à... Je serais plutôt partisan d'une sorte de relation sociale. De mettre en lien certaines personnes, puis au fur et à mesure, certaines personnes rencontrent d'autres personnes, et on essaye d'avoir un réseau, d'avoir un carnet d'adresses pour dire « Ah bah il y a un tel, il y a une telle, il sait faire ça, il sait comment... » Et du coup, voilà.
C'est très éduc-pop, hein. C'est très « réfléchissons ensemble, faisons ensemble, pour tous et par tous ». C'est très éduc-pop, cette idée. Et du coup, ce garage-là, déjà, quelle portée, quand est-ce que tu penses que ça va s'ouvrir? Qu'est-ce que ça va coûter pour les adhérents en termes de temps et en termes d'argent, peut-être?
Ah mince, je n'ai pas réfléchi.
Ah. à quelle portée tu
dans
penses
l'idée, que... Dans l'idée, moi, j'aurais bien voulu que janvier 2026, on soit opérationnel.
Cool, que je puisse réparer ma boîte de vitesse. Merci.
Bon, je pense qu'on risque d'avoir un peu de retard sur cette idée. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'amis. Donc il y a les amis de la ressourcerie, il y a les amis de Sarouille, donc Angélique et Laure, qui font de la soudure, etc. Il y a les amis d'Etiquetech, donc François, Fabien et Manu, qui eux bossent plus sur la low-tech. Et en fait, on est sur des problématiques communes d'émancipation, d'utilisation des outils, de restauration, de réfection, que ce soit sur plein de niveaux différents. Du coup, il y a aussi l'idée d'avoir une sorte de collectif associatif ou d'avoir une sorte de supra-association qui puisse réunir tout ça. Et comme on a déjà un lieu à Saint-Jory-de-Chalais, donc on déborde d'énergie, je vous le dis.
Cool. Et l'adhésion, ça va être quoi?
Ben, l'adhésion, ça serait un minimum, je sais pas, un truc comme 30 euros annuels. Et l'idée, c'est d'avoir un tarif préférentiel en fonction de tes revenus, en fonction de ce que tu peux, de ce que tu veux donner. Est-ce que tu payes un peu? Est-ce que tu donnes des heures de bénévolat? Et tout ça, bah moi j'ai des pistes sur le financement, sur l'idée de combien, en regardant tous les autres garages associatifs, comment ils travaillent.
Mais c'est possible alors? Par exemple, avant j'étais charpentier, si je veux proposer un atelier en charpente, ça ce serait possible qu'on fasse
ça? Je pense que ce serait possible. Peut-être qu'il y aurait quand même une petite base à payer parce qu'on a toujours des charges électriques, loyers. Oui, l'idée c'est que tu puisses te l'approprier parce que...
Je pense que ce serait très abouti ça.
Mais oui, ce serait très abouti et c'est l'idée parce que tous autant qu'on est dans ce projet de garage et dans les gens que je côtoie depuis 7-8 ans en Dordogne, en fait on est tous multi-activités. Tous les gens que je connais ont au moins 3 vies, donc ils ont tous une sorte d'expertise à transmettre sur... Donc l'idée de la singerie aussi du local qu'on a, c'est que ce soit un lieu qui puisse accueillir des formations.
On va arriver vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder, que je n'ai pas abordé?
Ah oui, on va s'appeler les bananes mécaniques, on sera à Saint-Jory-de-Chalais, on aura un numéro de téléphone spécifique.
Qu'est-ce qui manquerait sur ces idées d'atelier?
Bah, il y avait toute une idée, il y avait toute une réflexion sur le déchet aussi. Tu vois, on va travailler avec des déchets, des huiles, des hydrocarbures, on va faire des vidanges. On va sortir des huiles qui sont des hydrocarbures. On sait qu'il y a des tracteurs qui peuvent tourner à l'huile. Donc c'est comment on va faire avec tous nos déchets. Est-ce qu'on va juste les expédier en déchetterie ou est-ce qu'on peut aussi monter une filière spécifique pour... Voilà, il y a un côté résilient et un côté à travailler sur le déchet. Et est-ce qu'on reste sur l'idée du pétrole ou est-ce qu'on passe déjà à l'après-pétrole ? Enfin, ouais. Voilà, il y a...
Ça serait quoi l'après-pétrole ? L'après-thermique ?
Le vélo. Là, on pourra peut-être faire un groupement de tous les collectifs pour demander ce qu'on... Enfin, pour refabriquer des lignes de train. Parce que je pense qu'on ne s'en sortira pas avec des voitures électriques, et puis peut-être que le thermique, ça ne va pas être bien. Donc il y a ça. Et justement, sur l'après-thermique, de passer aux véhicules électriques, à l'intelligence artificielle et aux véhicules autonomes, ça demande énormément de ressources, minières notamment. Et là, justement, on aborde un point, c'est qu'on a une petite problématique minière actuellement sur Thiviers. J'ai pas mal de copains et de copines qui sont investis sur la mine de le projet Razac. D'extension de mine de Razac.
De Razac, oui. Le projet Imerys.
Voilà, le projet Imerys. Alors, ça pose plusieurs problèmes parce que c'est vrai que si on veut des matières, il faut aller les chercher. Souvent, les humains, ils sont allés les chercher dans le sol, hein. Que ce soit l'acier, le fer, le charbon, etc. On est allé le chercher. Et du coup, aller chercher des minerais en sous-sol, bah, ça pourrait être une décision qui pourrait être collective, par exemple. Là, toujours le problème, c'est que bah, c'est souvent un gros groupe multinational qui va le chercher sous couvert d'une sorte de chantage à l'emploi, puisqu'il faut de l'emploi localement et que, bah, voilà, alors c'est super, on va creuser, du coup, on va détruire, du coup, on va couper, et puis on va aller chercher du quartz pour en tirer une petite partie pour faire du silicium, pour aller faire d'autres choses. Et on exclut tout le reste. Donc toutes les atteintes environnementales, la destruction, etc. Et surtout, on va le faire pour le profit d'un très grand groupe. Donc, et ça me pose quand même un problème. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit de faire des entreprises polluantes d'une manière publique, hein, tant qu'à faire. Si c'est pollué et si c'est détruit, on pourrait le faire au moins d'une manière publique et coopérative. Et au moins, les profits ils seraient un peu redistribués. On pourrait imaginer reconstruire des choses. Après, est-ce qu'on doit creuser ?
Voilà. Oui, surtout bon, pour Imerys, sur Razac, c'est 30 emplois sur le site et 200 alentours, c'est-à-dire avec des fournisseurs. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Les élus, ils ont voté pour. Hein. S'ils avaient demandé à la population, je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord, mais notre démocratie étant celle-ci... oui. Hein, les représentants. Ok, merci à toi Rémi d'avoir répondu à toutes mes questions.
Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli, c'était très sympa. Je pense que j'ai oublié plein de choses, mais je serai forcé de revenir dans un an.
Enfin, ouais, hein. Bah oui. Bah, ouais. Quand il y aura le garage, avec plaisir, je t'accueillerai pour donner un peu de visibilité, pour comprendre un peu plus comment vous avez fonctionné au sein de l'asso, quelle place les uns les autres, quel pouvoir, quel... comment ça va fonctionner. Je t'espère plein de bien et que ça marche, parce que j'y viendrai pour ma voiture, évidemment. Je ne suis pas très loin de chez toi. Ben merci à toi. Merci aux auditeurs, aux auditrices d'avoir écouté l'émission. Je vous souhaite de bien déchiffrer ce qui a été dit, parce qu'il y a plein de choses sur le fonctionnement alternatif, comment ça se réfléchit là dans ce qui a été dit, notamment l'envie au départ, mais aussi... le lien, le réseau, tout ça, ça participe, l'éducation populaire, tout ça, ça participe au fonctionnement alternatif. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous, Rémi, de même. Bonne journée à toi. Au revoir.
Au revoir.
RLP.
L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard. Fermés à tout et moins de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.